Bienvenue dans le débat, notre espace d'échange et d'analyse croisée. Imaginez une élection censée dicter l'avenir d'un pays, mais qui se joue entre seulement 117 personnes réunies dans une même pièce.
Des individus qui se connaissent tous par leur prénom, en plus.
Exactement. C'est exactement ce qui s'est produit le 2 août 1910 à Vaduz, au Liechtenstein, lors du choix des représentants de la circonscription de l'Oberland. Le cœur de notre désaccord aujourd'hui, c'est ce système de vote à 2 degrés. Était-ce, disons, un simulacre archaïque d'ancien régime ou bien un modèle de représentation locale vraiment pragmatique. Je suis persuadé pour ma part que ce scrutin confisquait la volonté populaire au profit exclusif d'une élite.
Et moi, je suis convaincu du contraire. Loin d'être un complot élitiste, ce système de proximité constituait une architecture sociale organique et surtout extrêmement efficace pour un micro-État.
Efficace pour qui, en fait? Si on se replonge dans les faits, régis par la Constitution de 1862, on parle d'une population d'environ 10 000 habitants. 10 000 habitants complètement sous la coupe du prince Jean II.
Oui, enfin, la gestion sur le terrain...
Attendez, ce souverain, il réside à Vienne, à des centaines de kilomètres de là. Il maintient un pouvoir quasi absolu, il va même jusqu'à nommer lui-même une partie du Landtag, le parlement local.
Qui n'a qu'un rôle consultatif et budgétaire, oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, imposer un vote indirect par le biais de quelques mandataires, c'est l'assurance pour le palais d'étouffer toute velléité de changement à la base.
Non, mais vous baniez un peu vite la mécanique interne de cette assemblée-là. Regardons les résultats officiels de ce 2 août. Sur 122 grands électeurs attendus, 117 se présentent. Et le cas de Franz Schlegel est vraiment fascinant. Il est élu par ses pairs, mais il refuse purement et simplement son mandat.
Ce qui est son droit, évidemment.
Oui, mais dans un système centralisé moderne, ça aurait provoqué une crise ou au moins nécessité des mois d'élections partielles. Là, que se passe-t-il? Comme ils sont tous physiquement dans la même pièce, délibérant comme dans un vaste conseil de village, il s'ajuste instantanément et désigne Joseph Gassner à sa place.
Sur le champ, oui.
C'est la preuve d'une flexibilité inouïe. Les notables assument directement leurs responsabilités territoriales en temps réel.
Cette flexibilité que vous louez, elle me semble surtout être le fruit d'une intense pression sociale. Il faut bien comprendre le mécanisme. Pour nous, aujourd'hui, ce vote, il se fait à visage découvert.
Oui, à voix haute, c'est public.
Exactement, devant les voisins, les patrons ou même les créanciers. Il n'y a même pas de parti politique pour structurer les idées à l'époque.
Ils n'apparaîtront qu'après 1918, effectivement.
C'est ça. Donc moi, je vois ça comme un grand conseil d'administration familial pour la vallée du Rhin. L'idéologie n'a pas sa place. On ne vote pas pour une vision de la société, on vote pour préserver les parts de marché de la famille, les alliances lignagères. Ce qui, de fait, écrase tout véritable débat démocratique. C'est le rêve pour un prince lointain, finalement. Laisser les élites maintenir l'ordre entre elles...
Cette grille de lecture me paraît complètement anachronique, pour le coup. Vous calquez nos exigences démocratiques modernes sur une réalité géopolitique minuscule et très précaire.
Précaire, mais soumise à Vienne.
Oui, mais coincée entre l'immense empire austro-hongrois et la Suisse. La politique au Liechtenstein en 1910, elle ne pouvait pas s'offrir le luxe des dogmes abstraits. Elle devait être une affaire de terroir.
C'est-à-dire ?
Quand ces grands électeurs choisissent 7 titulaires et 3 suppléants, ils désignent des individus capables de défendre des intérêts vitaux immédiats. La gestion des pâturages, l'entretien des routes, la levée des impôts locaux, ce n'est pas un étouffement de la démocratie, c'est du pragmatisme pur.
Du pragmatisme, peut-être, mais un pragmatisme aveugle face à la grande histoire, en fait. La preuve incontestable que ce filtre était obsolète, c'est son incapacité à survivre.
Ah, je ne suis pas d'accord.
Dès 1918, puis avec la Constitution de 1921, ce système s'effondre pour laisser place au suffrage direct et à un régime parlementaire moderne. Ce conseil d'administration a craqué parce qu'il n'était tout simplement pas armé pour affronter les bouleversements de l'Europe post-1914.
Il n'a pas craqué, il a muté. Je ne vois pas du tout cela comme un échec, mais plutôt comme une étape évolutive indispensable. La démocratie liechtensteinoise actuelle, qui est ultra-vivante, elle repose sur une pratique assidue du référendum. Cette culture de la participation directe, de la responsabilité citoyenne, elle est l'héritière en droite ligne de cette gestion intime qu'on observe en 1910.
En définitive, ce scrutin de l'Oberland restera pour moi le crépuscule d'un ordre vertical, inféodé à Vienne et aux usages d'un empire finissant.
Et je continuerai d'y voir le socle d'une citoyenneté de proximité, la fondation d'un dialogue permanent entre les communautés.
Il y a tout de même un point de convergence fondamental entre nous, c'est l'ironie tragique de cet événement.
Ces hommes accomplissaient un geste routinier, persuadés de pérenniser un ordre immuable.
Sans avoir la moindre idée que presque jour pour jour, 4 ans plus tard, l'Europe s'embraserait.
Absolument. Avec la destruction imminente de l'Empire des Habsbourg, ce système de grands électeurs devait mourir pour que le Liechtenstein puisse s'arrimer à la Suisse. Une réflexion sur la capacité d'adaptation qu'il est toujours utile de garder en tête quand on interroge nos propres modèles. À chacun d'en tirer ses propres conclusions.